RFI, minuit 30 à Paris et à Kigali, 23h30 à Kinshasa.
Afrique Soir.
Et la dernière édition d'Afrique Soir avec Paul Lonsin-Spinelli. Bonsoir Paul.
Bonsoir Mathis, bonsoir à tous. L'administration américaine attend toujours de recevoir les suggestions congolaises et rwandaises pour dresser un brouillon d'un éventuel accord de paix. Les deux pays avaient jusqu'à ce vendredi soir pour fournir les éléments qu'ils veulent inscrire dans le document. Trois accords sont en fait attendus dans ce processus mené sous médiation américaine. Un pour la paix, donc entre les deux pays africains, et deux accords économiques bilatéraux avec les États-Unis, l'un avec Kinshasa, l'autre avec Kigali. Au Sahel, les djihadistes se fournissent principalement en armes, en pillant les armées régulières. C'est ce qui ressort d'un rapport scientifique dans lequel s'est plongé David Baché. Un insecte qui menace des milliers d'hectares de cultures agricoles. L'ONU s'inquiète de l'arrivée de criquets pèlerins en Afrique du Nord. RFI consacre le dossier d'Afrique Soir. Et puis d'ici un gros quart d'heure, nous irons dans un hôpital ivoirien où le contact peau contre peau entre des mères et leurs bébés nés prématurément sauve parfois la vie de ces nourrissons. Le sablier s'égrène et la RDC comme le Rwanda peaufine encore leur copie. Les deux pays étaient censés transmettre d'ici ce vendredi soir aux médiateurs américains les éléments qu'ils souhaitent voir figurer dans l'avant-projet d'accord de paix. Aucune communication n'a été faite par les deux délégations pour le moment. Ce volet du processus en partie conduit par Washington intègre au moins trois accords au total, Patient Ligaudy.
Trois accords sont attendus à ces stades dans les cadres de la médiation conduite par les États-Unis. Le premier est un accord de paix entre la RDC et le Rwanda, dont la signature est envisagée pour le mois de juin. En parallèle, deux accords économiques bilatéraux doivent être finalisés avec Washington. Le premier concerne la RDC. Il prévoit des investissements de plusieurs milliards de dollars d'entreprises américaines dans les mines congolaises et les infrastructures associées. Le second porte sur le Rwanda. Il concerne le développement des capacités de traitement, de raffinage et de commercialisation des minerais. Il est moins important en volume que celui signé avec la RDC, mais reste essentiel dans l'architecture globale du partenariat selon une source diplomatique. Un volet de coopération entre Kinshasa et Kigali est également en discussion, centré sur la chaîne de valeur minière. Les minerais extraits en RDC devraient transiter légalement par le Rwanda pour y être traités, raffinés et exportés vers les États-Unis. On peut aussi imaginer que la RDC sera également partie prenante dans les raffinages et la valeur ajoutée au sein des sociétés implantées au Rwanda. Il n'y aura pas de perdant, ajoute une autre source diplomatique. Ces trois accords politiques et économiques sont interdépendants et leurs contenus sont encore loin d'être finalisés.
Patient Ligaudy, ces négociations entre la RDC et le Rwanda sous la houlette des États-Unis ne sont pas vues d'un bon œil par tous les observateurs. Plusieurs voix se sont en effet fait entendre cette semaine pour demander plus de transparence et d'inclusivité. Martin Ziakwao Lembisa est professeur à l'Université catholique du Congo. Il qualifie ce processus d'opaque.
Nous constatons que le point de départ, ce n'est pas la reconnaissance de l'agression de la RDC par le Rwanda. Donc, on fait fi d'une réalité incontestable et on veut bâtir une autre réalité partant sur d'autres considérations essentiellement d'ordre économique. Oui, on peut, sur base de cette nouvelle réalité, avec la pression des États-Unis d'Amérique, obtenir le retrait des troupes rwandaises du territoire congolais, obtenir la fin de l'activisme militaire du M23, même s'il faut rappeler, souligner que le M23 n'est pas le seul groupe armé dans l'est de la RDC. Donc, ça signifie que cela ne suffira pas pour résoudre le problème dans son fond, mais surtout, cela ne pourrait pas suffire pour assurer une stabilité pérenne. Or, ce dont on a besoin, c'est de créer les conditions d'une résolution profonde de la situation pour une solution pérenne. Mais si dans cette quête de garantie sécuritaire contre le Rwanda, il y a opacité, puisqu'il n'y a pas de communication claire sur cette affaire, ça pose déjà problème.
Un propos recueilli par Alexandra Branjon. Décortiquer les arsenaux constitués par les djihadistes au Sahel, c'est la mission que s'est donnée Conflict Armament Research. Ce projet de recherche européen qui compile les armes utilisées dans les conflits à travers le monde a publié un rapport consacré au Sahel central mardi dernier. Le Mali, le Niger et le Burkina Faso sont concernés et principale conclusion des chercheurs, les armes utilisées par le JNIM, le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans affiliés affiliés à Al-Qaïda ou par l'État islamique au Sahel, ont principalement été pillés dans les stocks des armées nationales de la région. David Bachet.
Au moins une arme sur cinq, 20% de l'arsenal djihadiste provient des armées régulières de la région. Elles ont été amassées lors d'attaques menées sur place contre les forces maliennes, nigériennes et burkinabées. Mais le Conflict Armament Research a aussi identifié des armements provenant des forces de Côte d'Ivoire, du Libéria, de Libye, du Nigeria et du Tchad. Ces détournements constituent, selon les chercheurs, la principale source d'approvisionnement des groupes djihadistes, qui en ont même fait un aspect clé de leur double stratégie, affronter militairement les autorités étatiques et se procurer les armes nécessaires pour mener leurs opérations. En témoigne la propagande du JNIM qui diffuse régulièrement des vidéos présentant ces butins de guerre. Plus de 700 armes récupérées lors d'opérations antiterroristes ont été analysées. Fusils mitrailleuses, lance-grenades, mortiers. L'enquête conclut que les groupes djihadistes s'approvisionnent essentiellement à cette échelle locale du fait des contraintes logistiques et géographiques. Lorsqu'elles n'ont pas été pillées aux armées régulières, leurs armes vieillissantes ont souvent servi à d'autres acteurs illicites de la région. Les chercheurs assurent n'avoir trouvé aucune preuve convaincante de l'existence d'approvisionnement direct en armes depuis l'extérieur du Sahel central.
David Bachet, une signature en bas d'un article ou en fin de reportage à la télé ou à la radio peut s'avérer risquée, en particulier en Afrique. C'est l'une des conclusions du dernier classement mondial de l'organisation Reporters sans frontières publié ce vendredi. Écoutez, Sadi Boumarong, il est directeur Afrique de RSF.
La dégradation de la sécurité des journalistes compromet directement aussi la viabilité économique des médias au Sahel d'une manière générale. On l'a vu au Mali, on l'a vu également au Burkina, où les activités des médias sont suspendues. Et on a aussi vu que des journalistes jugés critiques des autorités ont même été en relais de force, ce qui renforce la chape de plomb sur les médias. C'est également le cas au Soudan où la guerre en cours a exacerbé les difficultés économiques des médias. Et c'est aussi le cas dans l'Est de la République du Congo, avec des dizaines de fermetures de radios et de journalistes déplacés et désormais sans emploi. Il y a la question de la sécurité des journalistes de plus en plus importante et la possibilité aussi que les journalistes peuvent avoir de travailler sans risque de représailles et sans risque également d'être emprisonnés de manière souvent arbitraire. Le fait que aussi les journalistes ne sont pas sous des pressions économiques ou des pressions financières, mais également des pressions de type juridique. Et cela compromet l'indépendance des médias.
Sadi Boumarong, directeur Afrique de Reporters sans frontières, interrogé par Christina Okello. La sphère médiatique sénégalaise ciblée par une campagne de suspension du gouvernement. 381 médias sur 639 sont visés par les mesures suspensives du ministère de la Communication. Lors d'une conférence de presse ce vendredi, le directeur de la communication a brandi l'argument d'une application basique de la loi. Habiboudia affirme en effet que l'exécutif souhaite assainir et réorganiser le secteur.
Aujourd'hui, les acteurs ont tendance à parler de fermeture de médias. Je rappelle que l'arrêté ne dit pas fermeture de médias ni entreprise de presse. Aucune entreprise n'a été fermée. C'est les canaux non conformes qui constituent des médias de ces entreprises qui peut-être en ont plusieurs. Quelqu'un peut avoir une télévision, un journal, un site web, une web TV. Si votre journal n'est pas conforme, votre journal doit cesser jusqu'à ce qu'il se conforme. Ça ne veut pas dire qu'on a demandé à l'entreprise de fermer. Ça, c'est un élément important de précision à apporter. L'autre aspect, c'est que la plupart des médias, en réalité, pour ne pas être très très violent, c'est des médias fantaisistes, c'est des déclarations de médias inexistants. Certaines radios communautaires n'émettaient pas, les fréquences sont attribuées mais les radios n'émettent pas. Certains journaux ne sont jamais parus sur la place publique, c'est des PDF. Certaines télévisions, entre guillemets, on se rend compte que c'est des chaînes YouTube qui se contentent, qui ne produisent même pas en ligne. Donc ces médias en réalité n'existent pas, n'ont pas de personnalité, n'ont pas de contenu.
Habiboudia au micro de Léa-Lisa Westerhoff. Selon le ministère de la Communication, les médias suspendus gardent la possibilité de se mettre en conformité sur une plateforme en ligne dédiée. Sans avoir la garantie d'accalmie des combats, revenir chez soi reste une priorité pour de nombreux Soudanais. Depuis le début de l'année, près de 400 000 déplacés internes sont rentrés chez eux, d'après l'Organisation internationale des migrations. Les États d'Al Jazeera, Sennar et Khartoum sont principalement concernés. Fin mars, l'armée soudanaise annonçait avoir justement chassé de la capitale les paramilitaires des forces de soutien rapide. Et malgré la poursuite des affrontements par endroits, des centaines de déplacés reviennent, notamment en train depuis Port-Soudan. C'est la suite de notre série de reportages dans le pays avec notre envoyé spécial Gaël Lalex.
La ligne entre Port-Soudan et Atbara est le dernier vestige du chemin de fer soudanais. Avant la guerre, elle se poursuivait jusqu'à Khartoum. Mehdi Ibrahim Al-Khalifa charge ses valises.
Je suis à Port-Soudan en tant que déplacé. J'ai quitté Khartoum, suis passé par Atbara, puis le nord du pays. Ma maison à Khartoum était très belle. Maintenant, j'ai tout perdu. Mais Khartoum est de nouveau sûr et je rentre pour reconstruire ma vie.
Un enthousiasme que ne partage pas Moudissir Mohamed Al-Hassan. Il retourne à Omdurman, dans la banlieue ouest de Khartoum, mais les nouvelles ne sont pas bonnes.
Il n'y a rien à Omdurman. Pas de sécurité, pas de nourriture, pas d'eau.
Alors pourquoi est-ce que vous y retournez ?
C'est chez moi, c'est là que mes enfants vont à l'école. On va tout recommencer du début, on n'a plus rien.
Les combats qui se poursuivent dans la capitale n'inquiètent pas Daoula Kamal Saadala, qui rentre chez elle accompagnée de ses 6 enfants.
J'ai vu des photos de ma maison, elle est en désordre, mais je ne sais pas si elle est détruite. Si elle a été pillée, tant pis. Je suis restée chez moi le plus longtemps possible, même avec la guerre. Je ne suis partie qu'à cause de mon fils qui a un problème au cœur.
Le train mettra près de 12 heures à parcourir les 500 km qui séparent Port-Soudan d'Atbara. C'est en bus qu'il faudra ensuite rejoindre la capitale. Gaël Lalex, de retour de Port-Soudan, Nairobi, RFI.
Avant-dernier épisode de notre série en 7 reportages au Soudan à retrouver en ligne sur notre site www.rfi.fr. Et puis on apprend ce soir par ailleurs la mort d'au moins 27 civils à En-Nahoud dans le centre-ouest du pays lors de la prise de contrôle de cette ville par les FSR. Selon le collectif soudanais pro-démocratie Emergency Lawyers, les paramilitaires ont arrêté et exécuté ces civils qu'ils accusaient de collaborer avec l'armée. Un ancien Premier ministre condamné à 34 ans de prison en Tunisie, Ali Larraye, dirigeant du mouvement islamiste Ennahda, était jugé par un tribunal de Tunis pour son implication dans l'envoi de djihadistes tunisiens en Irak et en Syrie lorsque sa formation était au pouvoir en Tunisie. L'ex-chef du gouvernement de mars 2013 à janvier 2014 a toujours clamé son innocence. En Algérie, l'une des principales chaînes télé du pays suspendue ce vendredi par l'autorité de régulation de l'audiovisuel. Et ce, pour avoir désigné des migrants d'origine subsaharienne avec un terme raciste sur sa page Facebook. Et Chorouk News TV a employé le mot « nègre » pour désigner des personnes interpellées lors d'une descente de police. Le média est sanctionné pour une durée de 10 jours.
Afrique Soir sur RFI.
Petit mais terriblement dérangeant, le criquet pèlerin a fait ces derniers mois une nouvelle apparition en Afrique du Nord. Une résurgence qui inquiète l'Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation et l'Agriculture, la FAO, qui a appelé cette semaine à la vigilance. Appel anticipé même par la Libye, la Tunisie, l'Algérie et le Maroc qui tentent de faire fuir ce nuisible en pulvérisant des pesticides dans les champs où le criquet élit domicile, Jeanne Richard.
Les premiers groupes de criquets pèlerins ont été observés dans le nord du Sahel en décembre dernier et pendant l'hiver, ils sont remontés avec le vent du désert jusqu'au Maghreb. Depuis, ils continuent à se développer selon le dernier bulletin de l'Organisation des Nations Unies pour l'Agriculture et l'Alimentation qui coordonne la lutte contre le criquet pèlerin dans la zone. Aujourd'hui, de petits essaims sont présents dans de nombreuses régions du centre de l'Algérie jusqu'en Tunisie et en Libye. Des groupes sont également détectés au Maroc, au nord du Tchad et du Niger. Le criquet pèlerin ne cause pas de problème lorsqu'il vit en solitaire, mais si les conditions sont bonnes, il se reproduit alors en grand nombre et change de comportement. Il forme des essaims capables de ravager les cultures. Selon la FAO, un seul kilomètre carré d'essaim peut contenir jusqu'à 80 millions d'adultes qui consomment en une seule journée la même quantité de nourriture que 35 000 personnes. Dans le Maghreb, la situation n'est pas encore hors de contrôle, expliquent les experts, mais l'alerte est lancée. Il est nécessaire de mieux surveiller surveiller et traiter les zones infestées pour éviter une invasion dans les mois prochains.
Et Jeanne Richard, pour mieux analyser cette nouvelle implantation des criquets pèlerins en Afrique du Nord, vous vous êtes entretenu avec Cyril Piou. Il est prévisionniste acridien à la FAO, c'est-à-dire qu'il est expert de la famille des criquets.
La situation de cette année est liée aux très bonnes pluies qui ont eu lieu dans tout le Sahel, et surtout dans le nord du Sahel, en août et septembre dernier. Et ces très bonnes pluies ont généré de la végétation dans des endroits qui habituellement reçoivent très très peu de pluie à cette période. Et cette végétation a permis aux criquets de se multiplier pendant plusieurs mois, assez tranquillement, on va dire, puisqu'ils étaient dans des endroits difficiles d'accès et majoritairement avec des problèmes de sécurité pour y accéder. Et ces groupes ont petit à petit migré vers le sud de l'Algérie, le sud de la Libye, en décembre, janvier. Et ils ont pu se reproduire dans ces endroits-là aussi, parce qu'il y avait eu des très bonnes pluies aussi dans ces endroits-là en septembre. Donc les conditions étaient idéales pour qu'ils puissent se reproduire. Donc là, on arrive au printemps avec des populations qui sont déjà assez haut niveau en termes d'effectifs et des groupes qui sont remontés jusqu'en Tunisie. Et ça s'était pas vu depuis une vingtaine d'années.
Vous dites que l'insécurité est en cause, mais les conditions météo aussi. Est-ce que le changement climatique a pu favoriser ce retour des criquets pèlerins?
De toute façon, le climat est toujours impliqué dans les dynamiques de population du criquet pèlerin. Les endroits qui reçoivent des pluies anormales dans les déserts sont extrêmement favorable au criquet pèlerin. Et là, on peut penser que ces très bonnes pluies qui sont remontées très au nord l'été dernier, qui risquent d'avoir encore lieu cet été qui vient, peuvent être un effet du changement climatique. C'est en tout cas ce que disent certains météorologues. Donc, on peut croire que tout ça, c'est lié, oui.
Et que doivent faire les pays du Maghreb et du Sahel face à ce risque d'invasion?
Donc concrètement, il faut que les États mobilisent des équipes sur le terrain pour pouvoir vérifier s'il y a des populations qui sont en train de se reproduire et donc de se multiplier, et les contrôler avant qu'ils ne refassent des groupes qui redescendent éventuellement vers le Sahel dans les mois qui viennent. Donc c'est particulièrement important pour empêcher l'arrivée de nouveaux essaims vers le sud dans le Sahel, mais aussi pour les cultures des pays du nord de l'Afrique, puisque sur le passage, les essaims pourraient aussi avoir des impacts sur leur agriculture. Donc tous les pays sont impliqués. Ils doivent s'entraider dans cette dynamique de gestion préventive.
Cyril Piou avec Jeanne Richard. Son visage sera celui de l'Église catholique. Le prochain pape va être élu au terme du conclave qui débutera ce mercredi prochain au Vatican. Une réunion des cardinaux électeurs chargée de désigner donc le successeur du pape François. RFI, de son côté, continue de vous présenter les principales figures du continent qui participent à ce processus. Et nous penchons aujourd'hui sur Peter Turkson. Le Ghanéen a été créé en tant que cardinal il y a plus de 20 ans et s'est illustré comme un acteur central au sein de la curie romaine, notamment pour son engagement en faveur de la paix, Victor Cariou.
Le cardinal Peter Turkson est un défenseur convaincu de la non-violence. En 2016, il disait par exemple préférer la juste paix à la guerre juste, une conviction que l'homme d'église de 76 ans a porté près d'une décennie à la tête du Conseil pontifical Justice et Paix. C'est d'ailleurs lui que le pape François choisit d'envoyer dans un Soudan du Sud en proie à la guerre civile pour assurer une médiation. Et la confiance que le souverain pontife accorde à Peter Turkson ne s'arrête pas là. Participation à l'élaboration de la doctrine environnementale de l'Église, défense des droits des migrants ou encore dialogue avec les géants économiques mondiaux à Davos. En dépit de sa proximité avec le pape François, l'homme d'Église ghanéen a pu adopter des positions bien plus conservatrices que celles du chef du Vatican, notamment en matière d'homosexualité. Un point de vue qui, selon ses proches, confère à l'ancien archevêque de Cape Coast au Ghana une position centrale et influente au sein de la curie romaine. Victor Cariou, Accra, RFI.
Et puis le patron sur le tour cycliste du Bénin s'appelle Reinhard Jans von Rendsburg. Le maillot jaune a remporté ce vendredi la cinquième et avant-dernière étape au sprint, une nouvelle fois. 100 km étaient à parcourir entre Winnie et la capitale Porto Novo. Le vainqueur sud-africain a devancé le Marocain Ibrahim Essebaï, mais d'autres protagonistes locaux se sont aussi distingués. Deux Béninois étaient en effet dans l'échappée du jour, repris à seulement 2 km de l'arrivée, Olivier Pron.
Le maillot du premier des Béninois. Merci d'applaudir très fort, Sojede Ricardo Durin.
Chez moi, c'est vraiment une fierté pour moi parce que j'ai tout donné. J'ai tout, et j'ai tout donné pour pouvoir donner le meilleur de moi, même de l'équipe. Et je suis fier de ce que j'ai fait aujourd'hui.
Ricardo Sojede en a rêvé, 80 km d'échappée, repris dans les artères de sa capitale par un peloton affamé, 12e au final, 32e au général. Qu'importe, le cyclisme béninois travaille bien et progresse vite. Ex-monteur des cyclistes rwandais, investi avec ceux du Bénin depuis les États-Unis, Jock Boyer estime avoir fait en 3 ans ici ce qu'il avait mis 8 années à construire au pays des mille collines. Glorad Saizonou, 19e aujourd'hui, est confiant et patient.
Je crois que avoir la confiance et la foi, ça va donner quelque chose. Ça progresse, on le constate tous, on s'améliore de jour en jour avec de nouveaux équipements et beaucoup d'entraînement, on progresse beaucoup et ça se voit quand même. L'objectif n'est pas encore atteint, on rêve encore beaucoup plus, mais je crois que ça va aller avec le temps, chaque chose en son temps.
En gros, donc, les résultats vont venir. Et bien même, résume Ezer Mensa.
C'est que nous avons de bons rails. Dans les années à venir, nous allons frapper fort.
Olivier Proncotonou, RFI.
Et puis, ultime chance de gagner sur leur tour pour les Béninois. Ce sera donc ce samedi, lors de la dernière étape entre Tofo et Cotonou. RFI, il est 22h50, temps universel. Tout de suite, les principes.
Afrique Soir sur RFI. Paul Lonsin-Spinelli.
Et les principaux titres de l'actualité internationale, avec d'abord l'armée israélienne qui annonce avoir frappé des infrastructures militaires en Syrie ce vendredi soir. L'Observatoire syrien des droits de l'homme annonce avoir observé au moins 20 frappes dans le pays. Un civil a été tué près de Damas selon la même organisation. Les Australiens aux urnes pour des législatives. Les bureaux de vote ont ouvert il y a moins d'une heure. Les Australiens qui ont à choisir entre le parti travailliste du Premier ministre sortant, Tony Albanese, et une coalition conservatrice. En France, le meurtrier d'Aboubacar Cissé a agi dans un contexte isolé, guidé par une envie obsessionnelle de tuer qu'il avait largement partagé sur les réseaux sociaux avant de s'en prendre à ce jeune malien dans sa mosquée. Ce sont des informations partagées par le parquet ce vendredi soir. Et puis en football, 6 mois après son rachat par la famille Arnaud et le groupe Red Bull, le Paris FC est promu en Ligue 1 grâce à un nul, un but partout face à Martigues, conjugué à celui de Metz contre Rodez en Ligue 2. 3 buts partout ce vendredi soir lors de la 33e et avant-dernière journée de 2e division. C'est une méthode qui fait ses preuves pour sauver la vie des bébés nés prématurément en Côte d'Ivoire. Près de 34 000 naissances prématurées sont enregistrées chaque année. En plus de leur placement en couveuse dans les hôpitaux, les nourrissons peuvent être mis en contact prolongé avec la peau de leur maman. Un programme intitulé « Soins mère kangourou » développé par l'UNICEF et le fonds Muskoka avec le gouvernement ivoirien. Marine Janin est allée observer cette technique au CHU de Trècheville à Abidjan.
Entre les pleurs des bébés et les discussions à voix basse des jeunes mères, l'atmosphère est feutrée dans le service Mère Kangourou. 16 femmes et leurs bébés sont actuellement logés, encadrés et soignés dans cette unité. Parmi elles, Fatim Wandao, 23 ans, porte entre les seins un bébé d'un mois, son premier enfant. L'hôpital a dû déclencher son accouchement avant terme, raconte-t-elle, à cause d'une complication survenue à 6 mois de grossesse.
Il l'a envoyé en couveuse. Le bébé était trop petit. Je me suis dit, est-ce qu'il va pouvoir m'en sortir? Quand je le voyais dans la couveuse là, il ne me sentait pas trop ça parce qu'elle était trop petite. Puis quand elle est venue ici, au fur et à mesure, j'ai commencé à prendre soin d'elle. Et puis les mamans qui sont ici, ils m'ont aidée.
La méthode est simple, explique l'infirmière Nicole Owo. Garder en permanence les bébés au contact de leur mère grâce à un foulard étroitement noué, comme pour prolonger la grossesse hors du ventre maternel.
On porte les bébés peau à peau à la poitrine des mamans. Et c'est cette chaleur-là qui permet à l'enfant de se développer. Et ça marche. Parce qu'on a des bébés qui viennent à 600 grammes. On les voit aujourd'hui. Ils sont normaux comme les autres bébés.
Le porté kangourou aide l'enfant à se développer, mais aussi la mère à garder un bon état psychologique, car les risques de dépression postpartum sont accentués après un accouchement prématuré. Le docteur Somemé Azieux dirige l'unité Mère Kangourou.
Ça permet à la maman aussi de regagner en confiance. Parce que femme prématurée, on se culpabilise, on est traumatisé. Donc la mère elle-même, elle voit l'enfant grandir, progresser. Parce que chaque jour, on fait les peser. 5 grammes aujourd'hui, 10 grammes aujourd'hui, demain 20 grammes au fur et à mesure. Et donc elle sent l'enfant même grandir. Donc quand on atteint le kilogramme, on célèbre.
15 centres de soins Mère-Kangourou sont déjà fonctionnels avec l'objectif de doubler ce nombre d'ici 2030. Le gouvernement aimerait appliquer ce programme à l'échelle nationale, encouragé par les bons résultats que souligne Marianne Astirbourg, représentante par intérim de l'UNICEF dans le pays.
Dans ce centre, je crois que pour l'année dernière, on a eu un taux de survie de 99%. 99%, c'est très important. Beaucoup de ces enfants auraient pu décéder. En effet, c'est une question de vie et de mort.
La prématurité reste l'une des principales causes de mortalité infantile. En Côte d'Ivoire, elle est responsable de près de 30% des décès néonataux. Marine Janin, Abidjan, RFI.
Ces mélodies ravivent le flambeau du reggae ivoirien avec son 7e album intitulé Ta Lumière. Fadal D revient sur le devant de la scène musicale. Le chanteur y interprète 26 titres entre engagement politique et éveil des consciences. Abdoulaziz Diallo vous fait découvrir ce projet.
Fils d'un célèbre chansonnier traditionnel et d'une mère danseuse, Fadal D signe son grand retour 5 ans après son dernier album. Avec Ta Lumière, le reggae-man ivoirien implore la lumière divine pour plus de paix, d'amour et d'humanité.
Ce qui se passe entre l'Israël et la Palestine depuis plus de 40 ans maintenant, ce qui se passe au Congo, ce qui se passe au Darfour, il faut y mettre fin. Pour cela, nous avons plus besoin de la lumière de Dieu. L'humanité a plus besoin de paix et de vivre ensemble.
Parmi les titres phares, Réveille-toi sonne comme une alerte adressée à une jeunesse qui l'appelle à sortir du sommeil de l'indifférence.
Pendant que tes amis bro, toi tu sommes.
Mais Fadal D ne se contente pas de dénoncer. Il salue aussi les efforts et appelle à préserver les acquis. Dans Le Pays avance, il s'adresse à la nation en cette année électorale.
Le pays avance, avance, avance sur le bon chemin.
Mon pays avance.
J'ai surtout un message de paix, d'amour, de vivre ensemble et de pardon. Ce qui s'est passé en 2010, nous ne voulons plus revenir dans ça. Le chien qui a vu le lion et le chien qui ne l'a pas vu n'ont pas la même manière de courir.
Dans cet album foisonnant de 26 titres, Ibrahima Kalilou Kone, alias Fadal D, interpelle aussi les régimes militaires de la sous-région. Tu parles trop est un message sans détour. Fadal D reste fidèle à lui-même, une voix pour éveiller les consciences. Avec Ta Lumière, il ne cherche pas seulement à briller, il veut éclairer. Abdelaziz Diallo, Abidjan.
Abidjan reggae, Côte d'Ivoire reggae, Abidjan reggae, sweet good reggae music, Rastafari. Big up.
Côte d'Ivoire reggae music,
Abidjan reggae.
Et le reggae de Fadaldé pour refermer cette dernière édition d'Afrique Soir. Jonathan Brady était à la réalisation, Guillaume Bédrane à la fabrication du journal et Sabine Mellet à la rédaction en chef. Restez bien à l'écoute des RFI. Dans 30 secondes, un nouveau journal, ce sera avec Antoine Gallet.
Le goût du monde, Clémence de Navy.
Elle a le goût et le parfum du Cambodge et de la cuisine de sa mère. Cette pâte de citronnelle, de galanga frais, de la racine camphrée, de kéfir et de curcuma mêlée. Bhopal la cuisine pour rentrer chez elle à Phnom Penh 50 ans après l'avoir fui. En cuisinant, elle donne voix à ceux qui ne sont plus. Bhopal raconte ce dimanche à 11h30 en temps universel.
Le goût du monde avec Clémence de Navy sur RFI et aussi en podcast sur RFI.fr.